Ah, il est 11h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Et c'est l'heure du journal. Bonjour Victor Missistrano.
Bonjour Juan, bonjour à tous. À la une de ce journal, les élections législatives françaises. Le premier tour s'est tenu hier. Nous reviendrons largement sur les résultats. Le parti présidentiel n'est que troisième, à 13 points de l'extrême droite, arrivé en tête. 33% des suffrages pour le Rassemblement national et ses alliés, parmi lesquels Éric Ciotti, le président du parti Les Républicains en tête, dans sa circonscription de Nice, dans le sud-est de la France. Le RN obtiendra-t-il la majorité à l'Assemblée nationale dimanche prochain? La gauche, arrivée en deuxième position avec 29% des voix, fait appel au barrage républicain. Les sympathisants du nouveau Front populaire se sont rassemblés hier soir à Paris. Reportage à suivre. Ce lundi, la Hongrie prend la présidence du Conseil de l'Union européenne. Un rôle symbolique, selon un chercheur dont nous écouterons l'analyse. Et puis en football, France-Belgique en huitième de finale de l'Euro. C'est à 16h, temps universel. C'est donc une nouvelle vague bleu marine qui a déferlé sur la France 3 semaines après les élections européennes et le séisme de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Le premier tour des législatives s'est tenu hier, participation historiquement forte. Le président de la République pensait revenir au centre du jeu. Paris manquait, son parti se place troisième avec 20% des voix. L'extrême droite arrive en tête, 33%, le score du Rassemblement National et de ses alliés, parmi eux Éric Ciotti, toujours président des Républicains. Le député sortant concourait sous la toute nouvelle bannière LR-RN et il est arrivé largement en tête dans sa circonscription de Nice, dans le sud-est de la France. Raphaël Delvolvé.
La ferveur dans le vieux port de Nice au moment d'annoncer les scores locaux, tous très favorables à son alliance. Mais Éric Ciotti transmet ensuite son inquiétude.
Voir l'extrême gauche prendre le pouvoir en France grâce à une alliance qui pourrait voir dans le même gouvernement Madame Rousseau, Monsieur Roussel, Monsieur Attal, Madame Borne.
Mettre tous les adversaires dans le même panier pour galvaniser un public qui rêve de le voir dans un gouvernement dirigé par Jordan Bardella, mais aussi pour lancer un nouvel appel aux LR qui ne l'ont pas suivi.
Je le dis à tous les membres des Républicains, ce soir, pas une voix des Républicains ne doit manquer à la coalition nationale.
Je ferai toutes les démarches pour favoriser cette unité.
Parmi la petite vingtaine de sympathisants, plus personne ne craint le RN.
Cette alliance, j'attendais depuis longtemps. Il ne faut pas avoir peur du RN aujourd'hui. Et les dernières brebis galeuses qui restent, elles vont rapidement partir année après année. C'est déjà ce qui se fait.
LR Canal Historique, 10% hier soir, refuse pour le moment tout désistement et consigne de vote. Toutefois, les lignes continuent de bouger. L'un des présidents par intérim, François-Xavier Bellamy, a déclaré hier soir « Le danger qui guette notre pays, c'est l'extrême gauche ». Nice, Adrien Toureau, Raphaël Delvolvé, RFI.
Et ces reports de voix vont compter. L'incertitude plane avant le second tour. Le Rassemblement national est parvenu à faire élire 39 députés dès le premier tour. Il lui en faudra au moins 289 pour avoir la majorité absolue. En raison de ces nombreuses triangulaires, les éventuels désistements seront décisifs. À ce sujet, la majorité se positionne en ordre dispersé quant à un front républicain. Certains, comme Édouard Philippe, refusent de choisir entre l'extrême droite et l'extrême gauche, incarnée selon lui par la France insoumise au sein du nouveau Front populaire. Tout sauf le RN, c'est la ligne défendue en revanche par le Premier ministre Gabriel Attal qui appelle au désistement en cas de troisième place. Même consigne à gauche, tout candidat arrivé en troisième position devra se retirer. Écoutez l'un des membres de cette alliance, l'eurodéputé Raphaël Glucksmann du parti Place Publique.
Il n'y aura de notre côté aucune hésitation, aucune tergiversation. L'unique enjeu de la semaine qui vient, c'est de barrer la route au Rassemblement national et d'empêcher une majorité absolue d'extrême droite. Et donc nous sommes extrêmement clairs. Partout où les candidats qui nous représentent sont arrivés troisième, il y aura désistement face au Rassemblement national. Et nous appellerons à voter pour le candidat qui peut battre le Rassemblement national, quel qu'il soit, quel que soit son parti politique, quelles que soient les divergences qui nous opposent.
Vous venez d'entendre la déclaration de Raphaël Glucksmann à Paris. Dès l'annonce des résultats, plusieurs milliers de personnes se sont réunies place de la République. Plusieurs cadres du nouveau Front populaire ont pris la parole. Après l'abattement des premiers instants face au score historique de l'extrême droite, ses sympathisants de gauche espèrent faire bloc avant le second tour. Pierre-Olivier.
Les yeux rivés sur leur téléphone portable, ce groupe d'amis découvre en direct les premières estimations abattues.
C'est catastrophique, quoi. Moi, j'étais un peu dans le déni, je me disais qu'il allait y avoir un sursaut un peu républicain, mais 34%, c'est énorme.
Cette jeune femme a les larmes aux yeux.
Je suis déçue pour le pays, vraiment. J'ai très peur pour mon pays et pour moi et pour tous les gens que j'aime. Et voilà.
Sur la place de la République, des slogans antifascistes sont scandés comme pour tenter de contrer l'hébétement général.
Je peux pas rire ce soir. On est passé de l'autre côté. De l'autre côté d'une sorte de quelque chose qui apparaissait impossible. Et là, c'est comme si on a traversé le fantasme. On réalise que la France est au bord d'être dans les mains d'un parti fasciste.
Malgré tout, ses sympathisants de gauche veulent plus que jamais faire bloc avant dimanche prochain.
On a déjà essayé RN, ça s'appelait Pétain, et on a vu ce que ça a donné. Voilà pourquoi je suis là.
Je vais encore prendre d'autres procurations.
Moi, je fais des vidéos, là, je suis en train de prendre des photos pour partager sur mes réseaux sociaux personnels, peut-être inciter les jeunes de mon âge à voter au second tour.
Jusque tard dans la nuit, les prises de parole des leaders du nouveau Front Populaire ont comme redonné un souffle d'espoir sur la place de la République.
De Pierre-Olivier à Paris. À la suite des résultats de ces élections législatives et de cette bévue du camp présidentiel, Gabriel Attal met en pause la réforme de l'assurance chômage, réforme qui visait notamment à durcir les conditions d'accès aux indemnités. Le Premier ministre a décidé de suspendre sa mise en œuvre. RFI. Vous écoutez RFI, il est 11h06 à Bruxelles. Ce lundi marque la fin de la présidence belge de l'Union européenne. La Hongrie prend cette responsabilité pour 6 mois. Cette présidence inquiète les milieux européens. Les relations sont pour le moins difficiles entre les autorités hongroises et les institutions européennes. Pour le chercheur Lukasz Masek, le rôle de cette présidence tournante est cependant avant tout de l'ordre du symbole et elle n'a qu'une conséquence marginale sur le fonctionnement de l'Union européenne. On l'écoute.
Il y a à la fois une importance symbolique, il y a une visibilité, il y a une capacité effectivement à influencer l'agenda du Conseil. Tout ça, c'est des choses importantes, mais fondamentalement, ce n'est pas une présidence. Une présidence coordonne davantage, communique, mais n'a pas un pouvoir formel réel. Donc de ce point de vue-là, je ne m'attends pas à ce que cette présidence change fondamentalement les choses. Elle ne va pas changer les rapports de force tels qu'ils existent. Mais c'est vrai qu'elle donnera une visibilité au gouvernement hongrois et à Viktor Orban en particulier, plus grande que d'habitude.
Des propos recueillis par Julien Chavanne. En Ukraine, des frappes russes sur la région de Donetsk dans l'est du pays ont tué 2 femmes âgées de 65 et 70 ans dans la ville d'Ukrainsk. Selon le procureur régional, le gouverneur de la région de Donetsk a appelé les civils à partir. Une grande répétition hier au Venezuela. La présidentielle aura lieu le 28 juillet. Les électeurs ont pu se familiariser avec les écrans des machines à voter. Objectif, s'assurer que le système de vote électronique fonctionne correctement. Du côté du parti au pouvoir, il s'agit aussi, voire peut-être surtout, de montrer sa capacité à mobiliser. Reportage dans la capitale vénézuélienne, Alice Campagnol.
Nous sommes là en tant qu'équipe politique pour organiser cette journée pour notre président Nicolas Maduro.
Dans la majorité des bureaux de vote ouverts pour ce galop d'essai hier, on trouvait exclusivement des partisans de Nicolas Maduro. Une démonstration de force pour les autorités en place qui ont appelé leurs supporters à se déplacer en masse, comme Saïda.
L'idée aujourd'hui est de montrer au président que nous sommes tous derrière lui. Il faut des millions et des millions de votes en sa faveur pour qu'il en sorte renforcé.
Pourtant, les sondages donnent l'actuel locataire du palais de Miraflores perdant avec environ 30% des intentions de vote contre 50% pour son principal rival, Edmundo González. Mais les militants du jour n'en croient pas un mot. Le 28 juillet prochain, Nicolas Maduro sera le grand gagnant, comme l'explique Saïda.
Évidemment qu'on est confiant, on va tout donner, on va les écraser. L'opposition ne peut pas revenir au pouvoir ici.
L'opposition n'a pas appelé ses partisans à participer à cette répétition, mais a cependant déployé quelques observateurs électoraux afin d'évaluer le processus de vote. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Et c'est ainsi que se termine ce journal. Il est 11h10 ici à Paris, place à Priorité Santé, présenté aujourd'hui par Chantal Leroux. Bonjour Chantal.
Bonjour Victor, merci beaucoup pour ce journal. À tout à l'heure.